Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 38. La cérémonie avait paru courte, trop courte, à Lucetta, que la griserie de sa situation avait failli accabler. Mais elle n'en avait pas moins connu une heure triomphale. Elle sentait encore entre ses doigts la main du royal visiteur et les caquetages qu'elle avait saisis touchant la possibilité d'une dignité de chevalier accordée à son mari, s'il lui paraissait un peu fou, n'évoquait point cependant d'impossibles visions. Des choses plus étranges étaient arrivées à des hommes remarquables et captivants comme son Écossais. Après son algarade avec le maire, Henchard s'était retiré derrière la tribune des dames. Il restait figé, regardant avec des yeux vides le revers de son vêtement qu'avait saisi la main de Farfrae. Il le toucha, comme s'il avait eu peine à réaliser un tel outrage de la part d'un homme qu'il avait traité naguère avec une générosité passionnée. Il restait ainsi, à demi engourdi, lorsqu'il saisit la conversation de Lucetta avec les autres dames. Il l'entendit distinctement le renier, démentir qu'il eût jamais aidé Donald, affirmer qu'il n'était rien qu'un ouvrier ordinaire. Il retournait chez lui lorsqu'il rencontra Job sous la voûte de la borne aux bœufs. « Alors, vous vous êtes fait rembarrer ?» lança Job. « Et après ?» demanda rudement Henchard. « Oh, cela m'est arrivé aussi. Alors nous avons reçu tous les deux la même douche. » Et il raconta brièvement sa tentative pour obtenir l'intercession de Lucetta. Henchard écouta l'histoire, sans y attacher d'autre importance. Ses propres griefs contre Farfrae et Lucetta lui faisaient fermer les yeux sur tous les griefs semblables. Il se répétait de façon entrecoupée. « Elle m'a supplié à son heure, et maintenant sa bouche ne veut pas me reconnaître, ses yeux ne me voient plus. Et lui, quelle colère! Il m'a repoussé comme un taureau qui enfonce une clôture. Je me suis laissé faire comme un agneau, je voyais bien que l'affaire ne pouvait pas se régler là. Il s'est versé du sel sur une plaie saignante, mais il me paiera cela, et elle s'en repentira. Il faut en venir à la bataille, face à face, et nous verrons la figure que fait un freluquet en présence d'un homme. » Sans réfléchir plus longtemps, et ému par une passion farouche, le commerçant déchu avala son dîner à la hâte et partit à la recherche de Farfrae. Battu comme rival et rabroué comme ouvrier, il avait subi aujourd'hui la suprême injure d'être pris au collet comme un vagabond par cet homme en face de toute la ville. La foule s'était dispersée. Seuls restaient les arcs de triomphe de verdure pour rappeler la fête dans une ville retournée à sa vie normale. Henchard descendit la rue du blé jusqu'à la maison du maire. Il frappa et fit dire à Farfrae qu'il serait heureux de le voir dans les greniers dès qu'il y pourrait venir. Après quoi, il longea le mur et entra dans la cour par la porte de derrière. Il n'y rencontra personne, comme il le savait à l'avance. Journaliers et charretiers avaient reçu un après-midi de congé en raison des événements de la matinée. Les charretiers devaient pourtant revenir un peu plus tard, le temps de faire la litière et de donner à manger aux chevaux. Arrivé à l'escalier du grenier, il allait en gravir les marches lorsqu'il dit à haute voix « Je suis plus fort que lui ». Il s'en alla sous un hangar et choisit un court morceau de corde parmi les cordelettes qui traînaient à terre. Il en noua une extrémité à un clou, prit l'autre dans sa main droite, pivota sur lui-même en gardant le bras appliqué contre son côté et l'immobilisa solidement. Sur quoi, il monta l'escalier et gagna le dernier étage des magasins à blé. Il n'y avait rien dans le grenier, que quelques sacs. À l'autre bout se trouvait la baie déjà signalée, sous la chaîne et la poulie destinée à hisser le blé. Henchard ouvrit le volet et regarda à ses pieds. Il y avait une hauteur de 30 à 40 pieds jusqu'au sol. C'est là qu'il se trouvait, derrière Farfrae, le jour où Elizabeth Jane l'avait vu lever les bras et avait conçu de telles appréhensions sur la portée de ce geste. Il fit quelques pas dans le grenier et attendit. De ce poste élevé, ses yeux dominaient tous les toits d'alentour, distinguaient les rameaux tombant des tilleuls et le faîte des châtaigniers plantureux, revêtus d'une tendre verdure, vieille à peine d'une semaine. Il apercevait aussi le jardin de Farfrae et la porte verte qui y conduisait. Au bout d'un certain temps, Henchard n'aurait su dire combien, cette porte s'ouvrit et Farfrae parut. Il était vêtu comme pour une course d'affaires. La lumière déclinante du soir proche vint frapper sa tête et son visage quand il émergea de l'ombre du mur et les anima d'une flamme chaude. Henchard le regardait, la bouche serrée. La carrure de sa mâchoire et la fermeté de son profil s'accusaient d'anormale façon. Farfrae s'avançait, une main dans la poche, et fredonnait un air dont les paroles semblaient l'obséder. C'était celle de la chanson qu'il avait chantée aux trois matelots, le soir de son arrivée à Casterbridge, lorsqu'il était un pauvre garçon, partant à l'aventure, pour chercher vie et fortune, sans bien savoir où il allait. « Et voici ma main, mon digne ami, et donne-moi aussi ta main. » Rien ne troublait plus Henchard qu'une ancienne chanson. Il recula. « Non, je ne puis pas, » haletait-il. « Pourquoi ce maudit imbécile chante-t-il cela maintenant ?» Farfrae cessa enfin de chanter, et, regardant par la porte du grenier, Henchard l'appela. « Voulez-vous monter ici ? » demanda-t-il. « Oui, oui, » répondit Farfrae. « Je ne vous voyais pas. Qu'y a-t-il de cassé ?» Une minute après, Henchard l'entendait grimper le premier escalier, aborder le palier, gravir le second étage, commencer l'ascension du troisième. Puis sa tête apparut par la trappe du grenier. « Que faites-vous donc ici à cette heure ? » demanda-t-il en s'avançant. « Pourquoi n'avez-vous pas pris votre congé comme les autres ?» Son accent comportait assez de sévérité pour montrer qu'il n'avait pas oublié le fâcheux incident de l'après-midi. Henchard ne répondit pas, mais s'en alla baisser la trappe de l'escalier et la frappa du pied pour la bien fermer. Puis il se tourna vers le jeune homme, qui le regardait avec surprise, et qui venait de voir qu'un des bras d'Henchard était lié à son côté. « Qu'est-ce que cela signifie ? » demanda simplement Farfrae. « Un peu de patience, mon garçon. Vous auriez dû regarder à deux fois, avant de pousser à la dernière extrémité un homme qui n'avait rien à perdre. J'ai supporté votre rivalité, qui m'a ruiné, et vos réprimandes, qui m'ont humilié, mais votre brutalité qui m'a déshonoré, je ne la supporterai pas. » Ces paroles échauffèrent un peu Farfrae. « Vous n'aviez rien à faire là, » s'écria-t-il. « Autant que vous tous. Alors vous, un jouvenceau présomptueux, vous allez dire à un homme de mon âge qu'il n'avait rien à faire là ?» La veine de la colère se gonflait sur le front d'Henchard. « Vous avez insulté la majesté royale, Henchard, et c'était mon devoir comme premier magistrat de vous en empêcher. » « Je me moque de la majesté royale. Je suis aussi loyal sujet que vous, d'ailleurs. » « Je ne suis pas ici pour discuter. Attendez d'être un peu plus calme. Attendez un peu et vous verrez vous-même les choses sous le même jour que moi. »« C'est peut-être vous qui vous calmerez le premier, » répliqua rudement Henchard. « Mais voici l'affaire. Nous allons dans ce grenier carré achever la petite partie que vous avez commencée ce matin. Voilà la porte, à 40 pieds du sol. L'un de nous poussera l'autre dehors. Le vainqueur restera dedans. Il pourra, s'il le veut, descendre ensuite et appeler en disant que l'autre est tombé par accident. » Ou raconter toute la vérité. Ce sera son affaire. Comme je suis le plus fort, je me suis attaché un bras pour ne pas avoir d'avantage sur vous. Vous comprenez ? Alors allez-y. » Farfrae n'eut que le temps de se mettre en garde, car Henchard avait immédiatement engagé le combat. Il s'agissait d'une lutte où chacun des combattants devait renverser son adversaire, et il était certain qu'Henchard, au moins, s'il y réussissait, pousserait Farfrae par la fenêtre. Pour commencer, Henchard agrippa vigoureusement sa main droite, la seule dont il se servit, au côté gauche du collet de Farfrae. Le jeune homme, lui, tenait le col d'Henchard de la main gauche. De la droite, il s'efforçait de saisir le bras gauche de son adversaire, mais n'y pouvait réussir, car l'autre l'effaçait adroitement derrière lui, sans perdre du regard les yeux de son blond et frêle antagoniste. Henchard planta un pied en avant, et Farfrae croisa sa jambe avec la sienne. Le combat jusque-là ressemblait fort aux luttes courtoises de la région. Les deux hommes conservaient la même attitude, se balançant et se tordant comme des arbres sous une tempête. Ils observaient un silence absolu, mais leur souffle commençait à se précipiter. Farfrae essaya tout à coup d'empoigner les deux côtés du col d'Henchard, mais l'autre lui résista et mit toute sa force dans un mouvement d'arrachement. Il termina cette phase de la lutte en jetant à genoux Farfrae par la seule pression de son bras musclé. Mais, empêtré comme il l'était, il ne put le maintenir dans cette position. L'Écossais bondit sur ses pieds, et le combat recommença. Une pirouette d'Henchard amena Donald redoutablement près du précipice. Voyant le danger, l'Écossais s'accrocha à son adversaire, et tous les furieux efforts de ce prince des ténèbres, comme aurait pu le faire désigner son attitude, furent pendant quelques minutes impuissant à soulever Farfrae ou à desserrer son étreinte. Par un extraordinaire effort, Enchard y réussit pourtant enfin, mais il s'était assez fort éloigné de la porte fatale. Enchard fit faire à Farfrae une culbute complète. Si son second bras avait été libre, c'en eût été fait de l'Écossais. Mais Donald put se remettre sur ses pieds et tordit violemment le bras de son adversaire en lui causant une douleur violente que trahit la crispation de son visage. Enchard réussit pourtant aussitôt une prise terrible de la hanche gauche, et, faisant pivoter l'Écossais d'irrésistible façon, il poursuivit son avantage, le repoussa vers la porte, et ne desserra pas son étreinte avant d'avoir vu la tête blonde de Donald pendre dans le vide et ses bras tomber le long du mur. « Maintenant, fit Enchard haletant, voilà la fin de la partie que vous avez commencée ce matin. Votre vie est entre mes mains. » « Prenez-la donc alors, prenez-la, » dit Farfrae. « Il y a assez longtemps que vous en avez envie. » Enchard le regarda sans répondre, et leurs yeux se rencontrèrent. « Oh, Farfrae, ce n'est pas vrai, » fit-il amèrement. « Dieu m'est témoin que nul homme n'en aima un autre comme je t'ai aimé en un temps. Et maintenant, j'étais venu pour te tuer, et je ne puis pas te faire de mal. Alors, faites-moi arrêter, faites ce que vous jugerez bon, peu m'importe ce que l'on fera de moi. » Il se recula vers le fond du grenier, et, dans une crise de remords, se laissa tomber sur les sacs. Farfrae le regardait en silence, puis il leva la trappe et descendit l'escalier. Enchard aurait voulu le rappeler, mais la voix lui manqua, et il entendit le pas du jeune homme mourir dans le lointain. Maintenant, Enchard s'abandonnait entièrement aux remords et à la honte. Il revoyait dans sa mémoire les scènes de ses premiers rapports avec Farfrae, de ce temps où le curieux mélange de romanesque et de sens pratique qui caractérisait le jeune homme lui avait si bien pris le cœur que Farfrae pouvait jouer de lui comme on joue d'un instrument. Il était dompté et restait affalé sur les sacs, dans une attitude étrange chez un homme et surtout chez un homme comme lui. Il y avait quelque chose de tragique dans un abandon presque féminin d'un aussi ferme représentant de la virilité. Il entendit une conversation sous la fenêtre du grenier. On ouvrait la porte de la remise et l'on attelait un cheval. Il ne prêta aucune attention à ses mouvements. Il restait prostré dans son coin. La pénombre subtile s'était épaissie en une obscurité opaque et la baie du grenier, seule forme visible autour de lui, n'était plus qu'un rectangle de lumière grisâtre. Enchard finit par se lever, secoua péniblement la poussière de ses vêtements, chercha son chemin jusqu'à la trappe et descendit à tâtons dans la cour. « Il faisait grand cas de moi en un temps, » murmurait-il. « Maintenant, il va me haïr et me mépriser à jamais. » Il se sentit envahi d'un accablant besoin de revoir Farfrae ce soir-là. Il plaiderait sa cause avec désespoir pour tenter la tâche presque impossible de se faire pardonner sa folle agression. Mais en se dirigeant vers la porte de Farfrae, il se souvint des bruits qu'il avait entendus dans la cour sans y prêter d'attention, tandis qu'il était plongé dans sa stupeur. Farfrae était allé à l'écurie et en avait sorti un cheval. Pendant qu'il attelait la bête au cabriolet, Whittle lui avait apporté une lettre. Farfrae avait dit qu'il n'irait pas du côté de Budmouth, comme il en avait l'intention, mais qu'appelé à l'improviste à Weatherbury, il passerait par Mellstock, village qui ne se trouvait qu'à 1 ou 2 milles de sa route. Il devait être prêt à partir lorsqu'il était arrivé dans la cour, sans soupçonner l'hostilité qui le guettait. Et il avait quitté la maison pour une destination nouvelle, sans souffler mot à personne de la scène survenue entre eux. Il était donc inutile d'aller frapper à sa porte, avant une heure avancée de la soirée. Enchard ne pouvait qu'attendre son retour, bien que l'attente fût une torture pour son cœur tumultueux et dévoré de remords. Il arpenta la rue et les alentours, en s'arrêtant de loin en loin, et finit par arriver au pont de pierre qui lui était devenu un lieu de repos familier. Il s'y accouda longuement, écoutant le bruit de l'eau sur le barrage et regardant les lumières de Casterbridge qui brillaient tout près de lui. Il se penchait sur le parapet lorsqu'il fut tiré de sa rêverie par des bruits bizarres venus de la ville. C'était une confusion de sons rythmés que l'adjonction d'échos répercutés par les rues rendait plus confuse encore. Sans y attacher d'importance, Enchard crut d'abord ce vacarme produit par la fanfare municipale qui s'évertuait à clore dignement par une explosion d'harmonie vespérale, une journée mémorable. Certaines étrangetés des sons apportés contredisaient pourtant cette manière de voir, mais leur singularité ne retint Henchard que de façon passagère. Le sentiment de sa dégradation était trop vif en lui pour lui permettre aucune pensée étrangère, et il se pencha à nouveau sur le parapet.